des livres plein les oreilles. Et bonjour mes amis, comment allez-vous en ce jeudi? Parce que vous savez que maintenant c'est le jeudi midi que cette émission-là est diffusée pour la première fois. Donc l'émission originale, hein, parce que vous savez qu'elle est en reprise aussi à moult reprises sur les ondes de Canal M. Alors bonjour à vous toutes et vous tous. Oui, je ne suis pas seule, c'est Clotilde Say qui vous convie à cette émission. Mais je serai entourée entre autres par Michel Langlois qui s'attaque à un très gros morceau. Et puis également, je reçois Simon Roy. Enfin, Simon Roy, prix des libraires 2015 et auteur de Ma vie rouge Kubrick. Je reviens sur les prix Euphonia et sur le prix du livre audio remis au livre audio Les bateaux volants. Vous allez écouter ça, c'est très très beau. Et puis, il y aura la bande-annonce de la semaine prochaine et puis des nouvelles et des livres. Et puis, on finira bien sûr par des titres en rafale. Eh bien, dites donc, Michel, vous, quand vous lisez, hein?
Allô?
Comment ça va?
Ça va très bien.
Je vous disais, vous, quand vous lisez, Michel Langlois, vous lisez, hein?
Alors, quand on bouffe, on bouffe.
Alors, je vous laisse le soin de nous présenter le livre dont vous allez... Ben, les livres, parce que je ne sais pas à quel tome vous êtes rendu, dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Alors, je suis rendu au tome 5. J'ai lu tout ce qu'il y avait disponible en audio.
Oui.
Ça s'appelle Le Trône de Fer. Ça a été mis en série à la télévision.
Ben oui.
Et puis, moi, j'avais des amis qui l'écoutaient en anglais. Puis là, je l'ai cherché. Puis je l'ai trouvé à l'école. Mm-hmm. Les volumes sont tellement gros qu'il n'est pas disponible en téléchargement. Il faut faire venir les CD.
Ah, c'est ça, hein?
Alors, j'ai ressorti mon vieux lecteur CD.
Mm-hmm.
Et écoutez, je sais pas exactement combien de jours ça m'a pris, mais j'ai été, je pense, peut-être 2 semaines absent de la planète. Complètement. J'étais parti à l'époque du trône d'affaires qu'on situe facilement au Moyen Âge. Quoique, je trouve qu'il y a une gastronomie très élaborée dans le livre pour l'époque.
Oui.
Il y a des libertés que l'auteur se donne. Je pense qu'en tout cas, on peut lui reconnaître ça.
Oui, on sait pas trop, en fait.
On sait pas trop.
Ils
mettent pas de date, ils mettent pas de lieu. Écoute, la trame, là, ça se passe quelque part, comme je te dis, à l'époque du style moyen. Au temps des chevaliers.
Oui.
Le trône de fer, c'est le trône de 7 royaumes.
OK.
Au début du livre, c'est un roi qui a été capable d'unifier les 7 royaumes.
Oui.
Sauf qu'il arrive un gros malheur à la chasse, il perd la vie. Et ça rouvre la guerre
à
tous les prétendants de ce trône-là.
Oui.
Et ça donne lieu, madame, à des... des choses comme ça, l'humain est capable d'en inventer, là.
Oui, hein.
Trahisons, des mesquineries.
Oui.
Ouch! C'est méchant, là.
Oui, puis il y a des têtes qui revolent, hein.
Oui, j'aurais aimé ça à télé, là. J'aurais aimé ça fournir le ketchup pour cette émission-là, parce que...
Ah, il y avait de l'hémoglobine, là, mon ami.
Mais
là, ça revolait.
Il n'y a rien de tout est extrême.
C'est ça.
Les sentiments amoureux sont extrêmes. Les femmes sont belles. Il y a de l'inceste. La reine couche avec son jumeau de frère. Puis
oui.
Les rejetons de ça qui sont rois un petit peu, à un moment donné.
Oui.
Et aussi, ça emprunte à... ça ressemble des bouts un peu au Seigneur des Anneaux.
Mm. Un peu plus violent quand même. Hein?
Oui, beaucoup. Hein? Mais aussi, ça ressemble à... Il y a du fantastique, il y a de tout là-dedans. Les morts ne sont pas nécessairement morts. Faire attention.
Oui.
Et puis, il y a un mur. Il y a une affaire qui est le fun, c'est quelqu'un qui a été trouvé coupable d'un crime grave. Il peut troquer son exécution pour devenir gardien du mur.
Du mur en question.
Oui, du fameux mur en question qui protège un peu la civilisation.
Oui.
Puis dont il y a des je dirais pas les punchs, là, mais il y a des des dangers qui viennent de l'au-delà de ce mur-là.
C'est ça. C'est
et
ça.
Et puis,
Moi, je dis c'est ça parce qu'honnêtement, j'ai vu la série, je pense que c'est les deux premières saisons, je pense. Et entre autres, les images, je ne sais pas comment ça commence dans les livres, mais au tout début, ça commence par le mur.
Et oui, c'est ça.
Hein. Et alors donc, derrière, il y a ces chevaliers qui sont habillés en noir.
Ça, c'est ceux qui protègent le mur.
C'est ça. Et est-ce que vous me permettez que je lise la promesse que font les gardes de nuit lorsqu'ils rentrent dans cette cavalerie-là?
Oui, oui.
Alors, ça dit ceci. « Oyez mes paroles et soyez témoins de mon serment », récitèrent-ils, emplissant d'une même voix l'obscurité croissante du bois sacré. La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la monterai. Je ne prendrai femme. Ah oui, parce que eux, ils font vœu de chasteté. Hein.
Exact.
Alors, je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, n'engendrerai. Je ne porterai de couronne, n'acquerrai de gloire. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart. Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit. Je les lui voue pour cette nuit-ci comme pour toutes les nuits à venir. Voilà.
Ben, je trouve que c'est bien choisi ton extrait, là, parce que ça donne une bonne idée aux gens. Le texte, parce que ça me permet de dire que c'est décrit un langage un petit peu vieillot.
Oui, c'est ça.
Des vieux français, là, ouais. un petit peu plus vieux que Molière. Là,
oui.
Les épées, là-dedans, on dirait qu'ils ont une vie autonome. Là, c'est comme c'est la Durandal du roi Roland. Là,
moi. Oui. Oui.
C'est de l'emphase d'un ou de l'autre. Il n'y a rien de banal. Mais moi, ce que je retiens comme mot, là, si je veux résumer ce que j'ai ressenti à lire ce livre-là, c'est une espèce d'envoûtement.
Ah oui, hein?
Oui. Ah ouais, t'es pris, en tout cas moi, j'ai été pris là-dedans complètement. Mais le gros drame, c'est que c'est cinq tomes.
Oui.
Ça, c'est le beau côté, parce que quand t'es en bac, t'es là pour longtemps.
Oui, et ils font chacun sur papier 1000 pages.
Ah, il y en a qui font plus que ça, parce qu'il y a certains des tomes, c'est deux CD.
Aïe, là.
C'est dire, madame. Hein?
Est-ce que c'est la même personne qui lit?
Presque, sauf le tome 2.
Wow.
Puis après ça, au tome 3 jusqu'à 5, ils sont venus avec la même lectrice, qui était super bonne.
Wow.
Puis une chance parce qu'au tome 2, ça prend un petit peu d'adaptation comme il y a des personnages là-dedans que c'est des Greyjoy. Pas mal tous des Anglais. Fait que même la lectrice numéro 2, elle les appelait des Greyjoy. Fait que mon
échec. Oh non!
Qu'est-ce qu'ils font là? C'est qui? Mais, comme les prénoms n'ont pas été changés, mon j'ai reconnu, tu sais.
Les Greyjoy, c'était qui? Est-ce que c'est les balais, ça? Est-ce que c'est les gros mecs, là, qui... parce qu'il y en a, à un moment donné, qui arrivent, là, qui forment une armée.
Non, c'est pas les géants.
Non?
Non.
Ah, OK.
Non, les Greyjoy, là, c'est des humains, mais ils sont plus des marins que des terriens. Et puis, il y en a un, là-dedans, là, qui va qui est dans la famille Stark, comme tu vois.
Oui, c'est ça, oui, 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 oui.
Ça va être Théon Greyjoy. Mais à un moment donné, il est gentil, mais à un moment donné, il vit accroche pour moi.
Ah oui, oui, c'est ça.
Mais il y a
c'est
des
ça.
Dragons là-dedans. Il y a la reine Daenerys.
Oui, oui, c'est ça.
Qui se promène avec ses dragons, là, on ne sait pas trop comment qu'elle fait pour accoucher des dragons, là.
Oui. Ça, c'est l'affaire des œufs hein, au départ. Hein,
oui, exact.
C'est ça.
Exact.
Et puis, il y a les loups aussi. On voit grandir la famille Stark.
Livre, là, chez les Stark, là, ils ramassent une famille de loups-garous. C'est pas des vrais loups, c'est des plus gros.
Oui, c'est ça. Ils sont énormes.
Chacun une personne.
C'est ça, exactement. Ouais. Bon, écoutez, moi, j'appelle ça un peu le jeu des sept familles. Ce truc-là, parce que c'est vrai qu'il y a sept trônes.
Ah, il y a plus que ça.
Ma dernière...
Il y a sept trônes avec sept familles prétendantes.
Oui.
Mais à côté de ça, là, l'autre bord de la mer, là, t'as Daenerys avec les dragons, puis c'est...
La belle blonde. Oui. Oui, c'est vrai.
Au début, je vais dire que les noms, à un moment donné, on s'y perd un peu dans...
Ah, alors là, c'est ce que je voulais savoir. Parce que nous qui avons nos yeux... et qui pouvions donc remarquer les différences physiques entre les uns et les autres, on se peau, mais on se perdait. Alors je me disais, vous qui l'écoutiez, il y a des fois où... Est-ce que vous aviez une référence, parfois, pour vous rappeler qui est le fils de qui, la femme de qui, ou pas?
Souvent, ils font des espèces de résumés. Je pense qu'il y a l'auteur, il est conscient du fait qu'il peut nous perdre, qu'il nous ramène.
Ah!
Mais autrement, c'est à force de lire que tu associes les lieux avec... moi, je m'aidais beaucoup avec les prénoms, parce que des fois, c'est moins compliqué que...
Oui, c'est vrai.
Comme les noms de famille, tu sais, les Baratheon, les Targaryens, puis...
Oui.
Mais, je veux dire, juste avant là, qu'on arrive au bout de notre temps...
Oui.
Quand j'ai fini le tome 5, madame, il n'y a rien de terminé.
Ben voyons donc.
Toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes. Je ne sais pas. J'attends le tome 6. Je ne sais pas s'il est écrit ou pas écrit. Il n'est pas disponible, en tout cas, en audio.
Ah, oui?
Ça, c'est un petit peu le malheur de l'affaire.
Il n'est pas écrit, me dit-on.
Ben, j'espère qu'il va se dépêcher, parce qu'il me semble que le tome 5, c'est 2013 qui est enregistré, fait qu'il a déjà été écrit en 2012.
Ouais, non, mais il paraît qu'il n'a pas été écrit. Il n'est même pas sorti sur papier, là. Il n'est pas écrit encore.
Ben, ça, c'est pas fait, parce que, je veux dire, le 2005, il n'y a rien de terminé.
Ah, ben alors là, je ne sais que vous dire. Ben alors là, je suis tellement triste pour vous, parce que moi, j'étais sûr qu'il y avait une conclusion à un moment donné.
J'ai vécu ça avec Harry Potter.
Oui.
Tu sais, on lisait les livres, puis l'autre n'était pas encore écrit. On fait la file à la librairie quand il va sortir.
D'accord.
Je vais faire la file à l'ECO quand il va sortir.
Ben oui, c'est ça. Mais enfin, là, ça va prendre encore du temps, parce qu'il faudrait d'abord l'écrire. Et vous en parlez super bien, Michel. Vraiment, bravo. Parce que je me disais, oh là là, dans quoi il se lance. Mais j'espère qu'on a donné l'envie à d'autres personnes de le lire.
Moi, je pense que c'est un classique.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est un classique, parce que ça regroupe un petit peu une fresque historique. Ça va chercher des éléments fantastiques.
Bon.
Je veux dire, tout est gros, il n'y a rien.
Oui,
la loupe est énorme là-dedans. Bon. Même les mouches, ils mesurent 10 pieds.
Merci, Michel. On vous aime, on vous embrasse. Et je vous dis à bientôt à une autre émission, le plus vite possible, s'il vous plaît. À bientôt. Salut, Michel. Bye. Michel Langlois. Alors, je vous le disais, l'invité du jour, c'est quelqu'un que j'avais hâte de recevoir à cette émission-là. C'est Simon Roy. Bonjour, Simon.
Bonjour, Clotilde. Ça va bien?
Ça va très, très bien. Et vous savez pourquoi j'avais hâte de vous recevoir, Simon? Parce que votre livre, Ma vie rouge Kubrick, est certainement l'un des livres qui a été le plus cité, le plus nommé par mes invités précédents, que ce soit par des personnes non-voyantes, que par des bénévoles, que par des invités qui viennent à chaque semaine, comme vous le faites aujourd'hui, pour nous parler d'un livre. Et à chaque fois, on m'arrivait avec « Ah, Ma vie rouge Kubrick » de Simon Roy.
Eh bien,
le saviez-vous ? C'est vrai, hein ? Alors, je voudrais dire avant toute chose que ce livre a été finaliste au Grand Prix du Livre de Montréal 2014 et vous avez remporté, avec Ma vie rouge Kubrick, le Prix des libraires du Québec en 2015.
Oui, hein, exact.
Simon, avant de faire connaissance avec ce livre, je voudrais qu'on fasse un peu connaissance avec vous. Vous êtes professeur de littérature.
Oui, au cégep Lionel Groulx, c'est situé à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal.
Avec des gens qui font beaucoup de théâtre, hein, tout ça.
Oui, il y a une option réputée, hein. L'une des 4 ou 5 grandes écoles de théâtre du Québec.
Voilà, exactement. Et je vous vois sur la photo, j'ai envie de vous demander quel âge vous avez, Simon? Est-ce que c'est indiscret?
J'ai 2 ans de plus que sur la photo, j'ai 47 ans.
47 ans. Ouais. C'est marrant parce que vous ne les faites absolument pas, puis j'avais l'impression d'avoir devant moi un jeune homme. Mais après, quand j'ai lu le livre et que j'ai vu les références de date, c'est évident que je savais que vous en aviez un petit peu plus. Mais je ne sais pas par quel bout prendre ce livre, sans dévoiler tout, mais en même temps, en informant totalement de quoi il s'agit. Commençons peut-être par le début. Oui. Commençons par le début du livre. Lorsque votre maman s'en va chez des voisins en face et vous laisse tout seul, yeah, la télévision pour moi tout seul, les chips.
Ouais, j'ai une dizaine d'années. Ben, le personnage, parce qu'il s'agit d'un roman, mais il y a des éléments assez chargés autobiographiquement. Ouais, ouais.
Ah, roman ou essai? Parce que...
Ben, c'est la grande question.
Ah.
C'est ce qui a changé disons qu'on n'a pas changé une virgule, mais il y a eu un genre d'évolution. Départ, il était considéré comme un roman, comme un essai, pardon.
Oui.
Par l'éditeur lui-même, qu'il a publié dans une collection principalement axée sur les parutions d'ouvrages de la forme d'essai, là, celle de Robert Lévesque, okay. La collection Liberté Grande.
D'accord.
Mais à la base, il y a des éléments qui sont vraiment proches du roman. Mm-hmm. Et probablement que les libraires ont joué un grand rôle dans le changement de forme, si on peut dire, du livre. Ils ont vu à juste titre qu'il s'agissait aussi d'un roman. Donc, on pourrait dire un livre hybride.
Mm-hmm.
Et quand je l'ai écrit, j'ai vraiment eu aucune arrière-pensée par rapport au genre. Je le destinais pas à une collection plutôt qu'une autre. J'ai écrit le livre, tout simplement. Puis c'est les libraires qui sont prêts avec l'heureux problème de le classer.
Et moi-même.
Oui, peut-être.
Simon, donc, retour, parce que je voudrais que ce soit vous qui nous le racontiez, ce moment.
Oui, le premier chapitre.
Oui, c'est ça. Vous êtes dans votre salon.
Oui, ma mère est partie jouer aux cartes chez des voisins. On habitait à l'époque dans un petit village à Saint-Alexis, près de Joliette. Puis c'était l'été, il faisait chaud. Puis comme vous l'avez dit en préambule, j'étais seul à la maison avec la zapette à télécommande. Et puis j'avais la télévision pour moi. Et en zappant, je suis tombé sur un film que je connaissais pas. J'avais, comme je le disais, une dizaine d'années. Puis c'était The Shining.
Oui.
C'est je me souviens pas exactement de la scène qui sur laquelle je suis tombé en zappant, mais une qui m'a profondément marqué, c'est celle où le cuisinier de l'hôtel Overlook dans The Shining, le cuisinier noir Dick Halloran, fait visiter les lieux, mais surtout la cuisine à la femme de Jack, Wendy, et son petit garçon Danny. Ils sont dans une pièce, un garde-manger. Et tout à coup, il se retourne vers le garçon, vers Danny, et il lui dit, c'est comme si Danny voyait à travers le cuisinier qui continue de parler à Wendy, et pendant qu'il est en train de parler à Wendy, il s'adresse au garçon comme une voix diffractée au ralenti qui fait assez peur, là, qui dit, tu aimes les glaces, canard. C'est comme ça qu'il le dit. Pour la façon dont je le raconte, ça n'a pas de quoi donner la chair de poule. Mais
non, mais si vous... Est-ce que vous seriez capable de nous le refaire?
Tu aimes les glaces, canards, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est ça. Hein? Et c'était bien doublé parce que la première fois, vous l'avez vu en français. Bon, c'est ça.
Ben, la plupart des fois que j'ai vu ce film, bon, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, mais je ne l'ai pas vu si souvent que ça dans sa version originale. Peut-être maximum 5 fois. La plupart du temps, je l'ai vu en français. Parce que je l'enseigne fréquemment au cégep où je travaille, au cégep Lionel-Groulx, un cégep francophone, donc je le passe en français. Ouais.
Alors écoutez, je suis terriblement frustrée, non pas à cause du livre, mais parce que je suis allée à mon club vidéo. Mm-hmm. Parce que je me suis dit, je ne peux pas recevoir Simon Roy qui nous parle de The Shining,
ouais.
sans revoir le film. Je l'ai déjà vu. Oui, absolument, mais il y a fort longtemps. Mm-hmm. Et évidemment, tout m'est revenu en mémoire au fur et à mesure que je découvrais votre livre.
Oui.
Mais malheureusement, je ne peux pas le croire. Qui a fait ça? Le film était sorti. J'ai dit, voyons donc! vous êtes sûr, mais en tout cas, bon.
C'est pas tout à fait étonnant, dans le sens où c'est un film très populaire, c'est un film culte. C'est pas étonnant que des gens l'empruntent. Ouais.
Mais c'était un film, au départ, qui partait très mal. Hein. Ça n'a pas eu le succès. En tout cas, c'est ce que vous racontez. Hein.
Ouais.
Comment je fais? Alors, plus on avance dans votre livre, et plus vous ressortez des éléments précis du livre, parce qu'il faut dire que Stanley Kubrick est un obsessionnel de la mise en scène.
Oh oui.
Comment?
perfectionniste, on pourrait dire.
Oui, perfectionniste, oui. Mais moi, j'y voyais quasiment... Ben, d'ailleurs, à un moment donné, vous le dites que c'est presque comme des TOC, hein, c'est-à-dire qu'il
oui,
est...
Oui, oui, les troubles obsessionnels compulsifs.
Exactement. Et alors, on se demande comment les acteurs ont déjà pu faire pour supporter le bonhomme, parce que, par exemple, la scène célèbre des coups de hache dans la porte, oui. Lorsque le personnage, interprété par Jack Nicholson, il faut le rappeler, oui. Brise la porte, 70 oui. portes, 3
oui,
jours de tournage.
Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de cet ordre-là, oui.
Et votre vie là-dedans, ou du moins la vie dans le roman, c'est que là, tout d'un coup, on a du mal à comprendre pourquoi ce type, il est... Vraiment, au début, moi, j'étais un petit peu décontenancée. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il aime autant ce film? Et petit à petit, vous nous amenez vous-même dans une histoire totalement terrifiante.
Oui. Ouais, je tiens au départ par la main le lecteur, comme si on était dans un labyrinthe et on se perd ensemble, hein, d'une certaine façon.
C'est le labyrinthe, d'ailleurs, qu'on retrouve, le fameux labyrinthe à la fin du film, là.
Oui. Ben, pas seulement à la fin, on le retrouve à quelques reprises, le labyrinthe végétal, comme une forme de haie de cèdre labyrinthique.
Oui. Mais alors moi, j'ai à la fois 10 000 questions et puis une seule. D'où ça vient? Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que votre maman a vraiment... Bon, parce que ça, je pense que je peux le dire. C'est quelqu'un dans le roman, disons ça comme ça, qui a tenté à ses jours une première fois, qui s'est raté, qui ne s'est pas raté la deuxième fois. Et on comprend au fur et à mesure qu'elle-même est la fille d'un drame terrible.
Hein. Bon, démêler ce qui est...
Est-ce qu'on peut le dire, tout ça?
Oui, ben c'est un bon résumé.
Alors, je vous laisse aller. Maintenant, c'est vous qui parlez, moi, je ne dis plus rien.
Ben, quand même... Quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'étais adolescent en 84, ma mère a fait une première tentative de suicide, mais elle a raté son coup, c'était avec des médicaments. Mm-hmm. Elle a été trouvée par son deuxième mari avant de s'éteindre, quoi. Mm. Puis cet épisode qui est raconté dans le livre est en tout point véridique. Par la suite, elle a toujours eu cette pulsion de mort, là, avant comme après. Elle a eu des accalmies. Bon, j'aime penser que quand mon frère et moi sommes nés, elle a eu des moments de soleil, puis elle nous l'a souvent dit qu'on était sa raison de vivre. Puis ensuite, j'ai eu moi-même des enfants, puis le cycle heureux a recommencé. Elle a eu de bonnes années. Mais sinon, à part ces intermèdes-là, ça a été assez noir, son existence. Et puis, comme vous l'avez mentionné, dans le roman, ce que je rapporte est réel, c'est-à-dire qu'elle a vraiment essayé une deuxième fois d'attenter à ses jours. Cette fois-là, là, elle s'est ratée, mais pour y arriver ultimement, là, elle a été 2 semaines dans un état quasi végétatif, dans une agonie. Mais en fait, tout ça est vrai. La partie... Mm-hmm. Mère suicidaire et mère qui se suicide, c'est réel. Ce qui a été, disons, de l'ordre du roman pur jus, c'est les motifs de son suicide que je n'ai pas évoqué. Les vrais motifs ne sont pas ceux qui sont racontés dans le livre.
Okay.
Ce qu'il faut savoir, c'est au moment où j'ai commencé l'écriture de ce livre-là, ma mère vivait, ma mère n'avait pas fait cette tentative-là de suicide. Et c'est finalement le choc, le bouleversement qui m'a fait tout réécrire. J'ai tout repris parce que j'étais en train d'écrire à ce moment-là un essai sur le Shining. J'étais en train d'écrire des réflexions, des pistes d'analyse. Étant donné ce qui est arrivé à ma mère, avec le conseil de mon éditeur Robert Lévesque, j'ai tout repris et j'ai fait... un peu comme... fait un genre d'introspection. J'ai regardé s'il n'y avait pas dans ma vie personnelle un hôtel Overlook ou une chambre 237, comme on la retrouve dans le film. Oui. Et puis, ben, étant donné ce qui est arrivé à ma mère, j'ai tout repris. J'ai créé un genre de jeu de labyrinthe, mais aussi un jeu de miroir entre la vie réelle, les drames de la vie réelle et la trame de Stanley Kubrick dans The Shining.
Ouais. Ouais. Et là, c'est là où... Ah, excusez-moi, vous allez ajouter quelque chose. Parce que c'est là où peut-être que les auditeurs sont en train de nous perdre. Parce que moi, c'est là où je me dis, on ne peut pas aller jusque-là, effectivement. On ne peut pas jusqu'à aller expliquer. Parce que je trouve que ce serait dommage. Il faut lire le livre.
Oui, absolument. Mais ce que je peux dire sans trop dévoiler de secret, c'est que les motifs réels de la mort de ma mère sont pas ceux évoqués dans le livre.
D'accord.
Et ceux qu'on trouve dans le roman sont vraiment inspirés du film de Stanley Kubrick.
Mm-hmm. Et c'est, vous savez, moi, au début, la première fois que j'ai entendu le titre de votre livre, Ma vie rouge Kubrick, j'ai d'abord pensé au jeu, là, vous savez, là, au jeu, comment on appelle ça, au Rubik, au jeu Rubik.
Ah, le cube.
Le cube. Et moi, j'ai pensé à ça. Et au départ, j'ai pas du tout pensé à Kubrick, car c'est là où je me suis dit, si je lui dis ça, il va me trouver complètement niaiseuse. Sauf qu'à un moment donné, vous parlez du cube Rubik dans votre livre. Vous n'étiez pas très doué là-dedans.
C'est possible,
c'est au moment, c'est au moment où
vous étiez capable de compléter, non?
Mais par contre,
talents, mais pas celui-là.
Voilà. Mais vous aviez. Est-ce que c'est vrai que vous aviez ce don de pouvoir instinctivement répondre aux questions un petit peu quoi? Je ne vais pas dire comme l'enfant lumière, mais.
Ouais, là vous faites une référence à un chapitre où
le grand vernis.
Je parle du grand. Oui, ce chapitre où je relate. Un épisode assez proche de la réalité où j'étais dans l'émission de télévision Génie en herbe avec mon école secondaire. On avait gagné la finale nationale cette année-là. Oui, complètement. Ouais. Quand j'ai été recruté, c'est sur cette base-là. L'équipe était aux trois quarts formée. Il manquait seulement le quatrième joueur. Puis il y en avait deux. Il y avait moi et une autre fille plutôt douée. Puis on s'est affronté dans un duel un mercredi midi avec les coachs de l'équipe. Puis je l'ai complètement clenché. Là. Parce que je voyais les questions, mais je prenais tellement pas ça au sérieux, je m'en foutais d'y aller ou pas à cette émission-là, dans cette équipe-là. Puis j'étais complètement décontracté. Aussitôt qu'une question commençait à être formulée, c'est comme si je la finissais. C'est comme si j'étais en symbiose avec le lecteur, de celui qui posait les questions, l'animateur. Puis ça avait très, très bien été. Mais comme je l'ai dit dans le livre, je referais le même test aujourd'hui, je me ferais...
Ce serait peut-être différent.
Ce serait le contraire.
Exactement. Écoutez, on va s'arrêter là bientôt parce que le temps passe vite. Mais ce que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est avant d'aller chercher ce livre-là, revoyez The Shining. Ça me semble essentiel parce qu'il y a tellement de détails quand on pense au Jack Daniels, par exemple.
Oui.
C'est vrai que lui s'appelait Jack.
Oui,
en tout cas, il y a tellement de détails de mise en scène, comme la photo des jumeaux à un moment donné.
Oui.
Hein, il y a tellement, je vous dis, dans ce livre qui n'est pas très très gros, je veux dire en termes de nombre de pages, mais qui est tellement abondant. Moi, j'aurais pu passer la journée avec vous parce qu'on pourrait s'arrêter sur chaque page pendant des heures et des heures. Je trouve. Et je vous remercie d'avoir créé ce labyrinthe littéraire autour de The Shining. Et j'ai tellement hâte que le film revienne. Je ne peux pas croire. Il va falloir que la personne là se déniaise. Parce que vraiment, je voudrais le revoir. Simon Roy, Ma vie rouge Kubrick. Mais je vous en prie, puis j'espère que vous allez en commettre d'autres.
Oui, sûrement l'automne prochain, il devrait avoir un autre livre qui va paraître chez Boréal.
Mm-hmm. Yes! Alors, j'aurai l'occasion de vous reparler.
Oui, bien sûr.
Je vous souhaite une belle journée, Simon Roy. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour
Merci,
l'émission.
Merci, au plaisir de se reparler.
D'accord, au revoir.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. On va commencer ça en musique.
Chez nous, les rêves décollent et s'évadent, et nos bateaux s'envolent en cascade. Tous ensemble à la pointe, on chante et on danse. À nous, le ciel immense. À nous, le ciel immense. Thank you.
Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle nous a programmé là, la Gaspésie, l'Afrique, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la dernière plage d'un disque qui comprend un conte raconté. Donc, c'est un CD, il s'agit d'un livre audio. Il existe sur papier et en même temps, il y a le CD à la fin du livre. Donc, ce n'est pas trouvable au SQLA, c'est trouvable dans toute bonne librairie si vous voulez acheter ce livre audio. Et si j'avais envie de vous le présenter, ce livre qui s'appelle « Les bateaux volants » d'Alexandre et Mathieu Vanas, illustration de Hélène Matt, c'est parce que c'est le livre qui a obtenu cette année, en 2015, le prix Euphonia du livre audio commercialisé. Et c'est vraiment très, très, très bien fait. Et ça se finit par cette chanson qu'on vient d'entendre. Alors, « Les bateaux volants ». On nous dit en quatrième de couverture que cette captivante histoire de bateaux volants des temps modernes est racontée sur un rythme percutant et empreinte de lyrisme qui vous plongera dans une épopée moderne imprégnée de clins d'œil surprenants à la légende La Chasse-Galerie. Nous sommes à Ruisseau à Rebours en Gaspésie, et de Ruisseau à Rebours en Gaspésie jusqu'aux ruelles sombres de Montréal, entre le monde virtuel d'un jeu vidéo addictif et le monde réel des jeunes d'aujourd'hui, nos deux jeunes héros vivent une intrigue plus vraie que nature. Grâce à leur témérité, Barnabé, le Gaspésien, fier héritier du pouvoir magique de son père, et Sophie, dont les parents sont originaires d'Afrique, plus québécoise que la poutine et qu'au langage à la sauce montréalaise, eh bien, ces deux-là vont unir leurs forces et leur tradition, la tradition de leurs deux cultures, pour ressusciter la magie d'un village. C'est vraiment très, très bien fait. Je vous propose d'écouter peut-être un chapitre pour que vous entendiez un petit peu à quoi ça ressemble. Ce chapitre-là s'intitule « Le violon magique ».
Moi, c'est Barnabé. J'ai 12 ans. Depuis que ma mère est morte, il y a 6 ans, j'habite avec mon père en Gaspésie, au village de Ruisseau à Rebours. Tous les cours d'eau coulent vers la mer, mais dans mon village, c'est le contraire. Le ruisseau part de la mer pour aller vers la terre. Spécial, hein? Mais c'est pas la seule chose qui soit spéciale par chez nous. Parce qu'ici, les bateaux volent. C'est notre secret. Un de mes ancêtres rêvait de faire voler son bateau pour aller fêter aux confins de l'horizon. Fait qu'il a traficoté avec le diable qui lui a donné un violon magique. Puis ça a fonctionné. Les gens du village ont pu explorer l'inconnu puis s'amuser les soirs de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le contraire de la pleine lune. Ça donne la nuit la plus noire du mois. Notre tradition magique se transmet de père en fils. Et moi, je vais bientôt devenir apprenti. J'adore jouer de la musique. Et grâce à mon père, les mélodies que je vais jouer seront vraiment magiques. Je sais qu'aujourd'hui, plus personne croit que les bateaux peuvent voler. Mais moi, c'est mon rêve depuis toujours d'y arriver.
Alors voilà, Les bateaux volants, je vous le rappelle, pour une fois, je vous parle d'un livre audio que vous ne retrouverez pas gratuitement. C'est un livre qu'il faut se procurer, mais comme c'est le prix Euphonia 2015 proposé par Vues et Voix, je trouvais qu'il était de bon ton de vous le présenter, surtout que c'est vraiment très bien fait. C'est très bien lu, les arrangements derrière, tout ce qu'on a rajouté, tous les bruitages, tout ça, c'est vraiment très, très bien réalisé. Alors, Les bateaux volants d'Alexandre et Mathieu Vanas, à se procurer à tout prix dans toute bonne librairie. « la bande-annonce, parce que la semaine prochaine, je suis ravie d'accueillir, du moins d'avoir un entretien téléphonique avec Jérôme Garcin. Bon, d'abord, qui est Jérôme Garcin? Cet homme dirige le service culturel du Nouvel Observateur en France, donc oui, c'est un Français. Il produit et anime l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Et il est membre du comité de lecture de la Comédie française. Et cet homme-là a donc écrit ce livre qui s'intitule Le Voyant. Monsieur Garcin, qui n'est pas n'importe qui a notamment reçu le prix Médicis, un essai en 1994 pour Jean Prévost, qu'il a rédigé, ou encore le prix des romancières 2014 pour Bleu Horizon. Ce livre-là, Le Voyant, a reçu en 2015 le prix Relais des voyageurs. Et c'est un livre qui porte, en fait, c'est entre un essai et un livre, c'est le portrait d'un auteur, un type extraordinaire, qui s'appelait Jacques Lusseyran. Ça s'écrit Lusseyran. Cet homme-là, à la suite d'un bête accident, quand il était jeune, il a perdu la vue. D'ailleurs, en quatrième de couverture, ça commence comme ça. Le visage en sang, Jacques hurle, « Mes yeux, où sont mes yeux ?» Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de muguet, il entre dans l'obscurité où seuls désormais les parfums, les sons et les formes auront des couleurs. Mais ce n'est pas tout ce qui lui arrive dans sa vie. Cet homme-là, aveugle donc à 8 ans, a été résistant à l'âge de 17 ans. Il a fait partie pendant la Seconde Guerre mondiale du mouvement Défense de la France. Il a été arrêté en 1943 par la Gestapo. Il a été incarcéré en prison à Fresnes, puis il a été déporté à Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il a écrit « Et la lumière fut » et il est parti enseigner la littérature aux États-Unis, où il devient « The blind hero of the French resistance ». Il meurt tellement bêtement en 1971, dans un accident de voiture. Il avait 47 ans. Alors Jérôme Garcin, que je vais avoir au bout du fil la semaine prochaine, nous revient 20 ans après pour Jean Prévost, qui, comme je vous le disais, avait obtenu le prix Médicis, essai 1994, avec le portrait de cet écrivain résistant que la France a négligé et que l'histoire a complètement oublié. C'est une histoire absolument passionnante et fascinante que cette histoire-là. J'ai envie de vous lire un extrait ou deux. Je vous avouerai que j'écris beaucoup dans les livres que je lis pour vous les présenter. Et là, j'ai pris des notes sur chaque page. Et honnêtement, j'ai envie de vous lire un extrait à chaque page. C'est pas mêlant, comme on dit, mais c'est vrai. Alors, par exemple, il y a ce rapport à sa cécité. Un an avant sa disparition, écrit M. Garcin, devant une assemblée de bien-voyants, il tenta une fois encore d'expliquer l'incroyable pouvoir qu'il avait tiré de son traumatisme originel, de montrer combien ce choc tellurique avait, en contrariant à la fois les idées reçues et les invariants scientifiques, déterminé toute son existence. Pourquoi enfin sa morale, sa philosophie de la vie, sa disposition au bonheur, son perpétuel besoin d'aimer découlait naturellement de ce drame dont il n'allait cesser de faire une promesse et une chance. Car il rendait grâce au ciel, qui, en le privant de l'essentiel, lui avait fait approcher une vérité plus essentielle encore. Il l'exposait ainsi. La découverte fondamentale, je l'ai faite 10 jours à peine après l'accident qui m'avait rendu aveugle. Elle me laisse encore ébloui. Je ne peux l'exprimer qu'en termes très directs et très forts. J'avais perdu mes 2 yeux. Je ne voyais plus la lumière du monde, et la lumière était toujours là. Imaginez ce que cette surprise a pu être pour un petit garçon de moins de 8 ans. C'est vrai, la lumière, je ne la voyais plus hors de moi, sur les choses, mélangées aux choses et jouant avec elles, et tout le monde autour de moi était convaincu que je l'avais à jamais perdue. Mais je la retrouvais ailleurs, je la retrouvais au-dedans de moi, et, ô merveille, elle était intacte. Voilà le genre de propos que vous pourrez lire sur cet homme-là. Je vous l'ai dit, écoutez, quand il arrive, entre autres, au camp de concentration, évidemment, lui, en plus, il ne voit pas. Alors, écoutez, faut le lire, ne serait-ce que pour mieux faire connaissance avec ce monsieur Lusseyran, qui a d'ailleurs rédigé quelques livres qui ont été lus, ici même, par Vues et Voix. Alors, j'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine, alors que je vous présenterai cette entrevue. effectuée avec Jérôme Garçon, qui a donc écrit ce livre qui s'appelle « Le voyant ». Mais oui, Céline Dion, et pourquoi pas Céline Dion en guise de jingle pour des nouvelles et des livres, puisqu'il y a deux semaines, hein, cette émission est toujours enregistrée avec deux semaines d'avance, nous quittait René Angélil, l'homme derrière Céline Dion. Alors je me suis vite ruée pour aller voir ce que nous avions de René Angélil, et nous avons quelque chose au SQLA. Si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur la carrière de cet homme, de ce personnage dominant hein, dans le monde artistique. Bien avant de faire la rencontre de Céline Dion, Angélil faisait souvent la manchette des journaux artistiques québécois. Pendant quatre décennies, de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'a jamais cessé de faire parler de lui. Déjà avant la formation des Baronets, vous savez, ce trio de chanteurs qui a connu un succès monstre en Amérique, eh bien, il faisait déjà la pluie et le beau temps avec son ami Pierre Labelle dans les nombreux concours d'amateurs du Québec. Alors évidemment, sa rencontre avec Céline Dion, qu'on vient d'entendre dans Ziggy, changera son destin. Et là, ce qu'on vous propose dans ce livre-là, avec René Angélil, l'homme derrière Céline Dion, c'est le récit d'une vie passionnante, faite de haut et de bas, comme tout le monde, d'amour passionné, de déception. C'est le portrait d'un homme qui rêvait de faire sauter la banque des casinos, mais qui, grâce au talent et à l'ambition de Céline Dion, devenait un des hommes les plus riches de sa génération. Je vous redonne le titre, René Angélil, l'homme derrière Céline Dion, d'Yves Boudreau, B-O-U-D-R-E-A-U. Et puis d'une chanson Ziggy, on va passer à un autre Ziggy, mais Ziggy Stardust, celui-ci, puisqu'il y a deux semaines, juste un petit peu avant, René Angeli, il a 69 ans, c'est David Bowie qui nous quittait. C'est vraiment trop jeune pour partir. Vous savez qu'il a mis en scène littéralement sa mort. Lui, il savait très très bien, ça faisait 18 mois qu'il souffrait de ce cancer-là. Il savait qu'il serait emporté. Alors il avait fait une mise en scène incroyable sur les chansons. On a vu des images folles où il était sur un espèce de lit d'hôpital minable et son corps qui s'élevait et tout. Bon. Et tout le monde s'est dit, ah c'est génial, mais en fait c'était vraiment la mise en scène de sa propre mise à mort et de sa sortie définitive de cette terre. Alors là aussi, je me suis ruée pour voir si au SQLA, à l'INCA, on avait quelque chose. Au SQLA, rien sur David Bowie. Et à l'INCA, on trouve un livre, mais malheureusement, il est en anglais seulement. Je vous le propose quand même, parce que, regardez, Michel Langlois a lu Le Trône de Fer en anglais, donc vous êtes peut-être nombreux à écouter des livres en anglais. Alors, vous pourrez en trouver un via l'INCA. Ça s'appelle The Man Who Sold the World, David Bowie, and the 70s. C'est de Peter Doggett. Ça s'écrit D-O-G-G-E-T-T. Et je rappelle que c'est à l'INCA. Alors, les titres en rafale, bien sûr, pour terminer cette émission. J'aime bien vous proposer des titres qui viennent de sortir ou qui sont peut-être sortis quoi, dans les deux derniers mois, que vous pouvez trouver via SQLA ou l'INCA. D'abord, ce livre qui s'appelle La couveuse, qui est signé Marie-Claude Barrette, oui, Madame Mario Dumont. Pourquoi ça s'appelle La couveuse? Non, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une histoire vraie, quelque chose qu'elle a vécu. On nous dit d'ailleurs en quatrième de couve ici, quelques mois à peine après avoir perdu un enfant à la naissance, Marie-Claude Barrette est de nouveau enceinte. Par précaution, elle passe une amniosynthèse. Malheur, pendant la nuit suivante, elle perd du liquide amniotique. Elle se rend à l'hôpital, le verdict est sans appel, les chances de mener sa grossesse à terme sont minces et requièrent un sacrifice impensable, s'immobiliser complètement. Avec son mari Mario Dumont, alors élu à l'Assemblée nationale, elle décide que le jeu en vaut la chandelle. Alors commence pour elle un très très long bed-in. Elle restera alitée durant 133 jours, mais elle gagnera sa bataille envers et contre tous, grâce au soutien de sa famille, évidemment, dont sa fillette de 3 ans, Angela, et surtout grâce à sa détermination. Marie-Claude dira « il y a l'avant et l'après ». Sa vie s'est redéfinie ce jour où Charles est né. Elle s'est fait confiance, elle est allée au bout de ses choix, elle a couvé son petit, se questionnant sur le sens de ses propres priorités. Alors Chloé Oli, elle observe le monde qui l'entoure, qui tourne autour d'elle d'un œil tantôt critique, tantôt amusé. Elle nous fait partager cette expérience personnelle, mais elle nous livre aussi sa vision de la famille, de la vie et de l'amitié. C'est une histoire absolument inspirante. Quelques mots sur Marie-Claude Barrette, qui a milité en politique et qui a travaillé dans les milieux de la culture. Elle évolue encore aujourd'hui dans le monde des médias. Elle anime encore Deux filles le matin à TVA. Elle est également l'animatrice de Simplement Vedette à Canal Vie. Je pense que c'est encore vrai. Et elle est également conférencière. Manet, le secret. On passe de Marie-Claude Barrette à la peinture. C'est de Sophie Chauveau et décidément Madame Chauveau qui nous régale de biographies romancées de grands artistes, de peintres principalement, malgré une incursion d'ailleurs très réussie dans l'univers des philosophes des Lumières avec Diderot. Une lectrice nous dit ici qu'elle avait particulièrement apprécié sa trilogie qui se déroulait à Florence pendant la Renaissance et explorait les univers de Fra Filippo Lippi ou encore Sandro Botticelli et Leonardo da Vinci. Mais alors, quand j'ai vu que la dernière opération masse critique de Babelio proposait le dernier ouvrage de Madame Chauveau, Sophie Chauveau, j'ai sauté sur l'occasion, dit cette lectrice, et j'ai reçu le récent Manet, Le Secret, qui ne m'a pas déçu. Édouard Manet, ce peintre, génie précurseur, chef de file contre son gré des impressionnistes, est en effet un personnage complètement fascinant, un homme élégant au caractère mélancolique. Il est né dans un milieu bourgeois, il s'oppose à son père qui veut qu'il fasse son droit et préfère s'engager dans la marine pour échapper à un destin monotone. De retour en France, il se lance dans la peinture, mais il continue à mener une vie bourgeoise au sein de sa famille et il tombe bientôt éperdument, mais complètement fou, amoureux de la jeune pianiste hollandaise engagée par sa mère pour enseigner la musique à la famille. Une liaison débute cachée soigneusement à ses parents, puis révélée à sa mère quand il ne pourra plus faire autrement. Voilà, le ton est donné. Comme le dit et le démontre Sophie Chauveau, la vie de Manet s'articule toujours autour d'un entre-deux. Alors, si vous aimez la peinture, si vous aimez les biographies, je ne saurais que trop vous recommander Manet, Le Secret de Sophie Chauveau. Et puis tiens, comme je vais vous parler d'un autre livre sur des airs de musique célèbres et notamment de ce qu'on va entendre, alors écoutons-le.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Ah là 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 là. Qui ne se plaît pas à fredonner avec une émotion toute personnelle des airs comme ceci? Qui n'a pas eu envie d'entonner à tue-tête avec les deux pieds dans les flaques et dans la rue ce fameux refrain « Singing in the rain » Eh bien, c'est comme ça qu'on nous présente les airs mythiques d'Elisabeth Brisson. Les airs mythiques, donc, c'est une présentation d'une quarantaine d'airs qui se proposent d'accroître la joie à les reconnaître et à les chanter en apportant des éclairages pertinents sur leur facture ainsi que sur le contexte de leur composition comme sur les modalités de leur réception et de leur diffusion. Alors, si vous aimez la musique, si vous aimez chanter, chantonner, si vous voulez savoir pourquoi vous aimez chanter ces airs-là, je ne saurais que trop vous recommander les airs mythiques d'Elisabeth Brisson, Brisson. Ensemble pour toujours de Denis Monette. Monsieur Monette, que faisiez-vous avant d'être journaliste et romancier? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? On peut savoir votre âge? Vous êtes allé à Hollywood, n'est-ce pas? Tant de questions et si peu de réponses, j'ai alors réalisé que les lecteurs désiraient tout connaître de moi. On a bien sûr appris ce qu'était mon enfance avec les parapluies du diable, mais l'homme après l'enfant, le jeune homme marié, eh bien, on connaît à peine le prénom de ma femme. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce journaliste et romancier qu'est Denis Monette, eh bien, je vous recommande la lecture de « Ensemble pour toujours ». Voilà, je vais vous laisser sur ce titre de Monsieur Denis Monette, non sans remercier mes invités Michel Langlois et Simon Roy. Remercier également Jean-Sébastien Laliberté qui m'accueille ici, oui, en studio, et qui m'accompagne surtout, toujours de façon si sympathique. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite une excellente lecture et je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi, à midi.